Vous vous levez, vous saluez une personne, deux personnes. Vous lui souhaitez la bienvenue dans la maison de Dieu. Si vous voyez qu'il est un peu fatigué comme moi ce matin, vous le secouez un peu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Le lieu où Dieu nous challenge, le lieu où Dieu nous transforme à son image. Sois béni Céline. Sois béni, ma sœur Carole, sois béni. Soyez béni au nom de Jésus. Alléluia. C'est toujours pour moi un gros challenge que de parler de la part de Dieu ici au Carrefour des Nations. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il donne le tempo. Et depuis ce matin, il donne le tempo de ce qu'il veut communiquer à ses enfants ce matin. Mais permettez-moi de prendre encore 2 minutes avec vous. Je vais chanter quelques chants et demander à Dieu de m'assister pendant ces instants.
Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi ce matin. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. La vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi ce matin. Prends-moi. Je le crois, durera fait ta fidélité. Tu reviens, je le crois, Jésus. Peu importe ce que je ressens, ta fidélité.
Vous avez là mon répertoire de prière. Quand je dois prier et être dans la présence de Dieu, être dans sa douce présence pour qu'il me transforme, pour qu'il me façonne, c'est les chants que je chante tous les jours. Mon Dieu est bon pour moi. Comme vous le savez, le thème de nos messages depuis quelque temps, et pendant que les techniciens pouvaient diminuer juste les retours, le thème de nos messages depuis quelque temps, c'est la transformation permanente. Qui aime être transformé ce matin? Vous êtes sûr que vous aimez ça? Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas, mais c'est nécessaire, comme Suzanne le dit. On n'aime pas ça. Ça ne nous tente pas d'être forgé par Dieu, de passer au pressoir de sa présence. Mais c'est nécessaire. Ce matin, je vais parler avec vous du processus de transformation permanente. Faut-il l'accepter ou pas? Voici mon titre. Le processus de transformation permanente, faut-il l'accepter ou pas? Plusieurs choses ont été déjà dites sur l'idée de transformation permanente. J'aimerais ce matin mettre l'accent sur ce que c'est vraiment la transformation permanente. Est-ce qu'on a une idée claire dans notre esprit de ce que ça signifie? être transformé de manière permanente. Ce genre de message n'est pas très populaire. Parce que nous sommes habitués à entendre des messages où on nous promet la bénédiction. On nous promet que nous changerons de statut, que nous serons en haut et non en bas, devant, pas derrière. Ce message que je vais faire ce matin n'est pas populaire, mais il est nécessaire. Alors, nous allons voir ensemble comment se traduit concrètement la transformation permanente. Quelles sont les personnes que Dieu met dans ce processus? Parce que nous tous, on n'est peut-être pas appelés à être dans ce processus. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être dans ce processus de transformation permanente. C'est autant de questions dont je n'ai pas la prétention ce matin d'avoir la réponse, mais je tenterai d'apporter un petit éclairage selon la capacité spirituelle que Dieu me donne ce matin. Comme vous le savez, le verset de base de cette idée de transformation permanente est tiré de 2 Corinthiens 3, 18, qui souligne ceci: nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Retenez le mot « nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire ». La version Parole de vie donne une toute autre idée, peut-être un peu plus éclairante, de ce verset. La version Parole de vie dit « notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme et nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. » Ce verset nous montre que nous sommes aux prises en tant qu'enfants de Dieu avec un processus que peut-être nous n'avons pas désiré, comme moi ce matin, que nous n'avons peut-être pas souhaité. Mais nous sommes aux prises avec un processus. Lorsque nous sommes le visage découvert devant la présence de Dieu, lorsque nous sommes le visage découvert, non masqué, parce que nous pouvons venir dans la présence de Dieu avec des visages masqués, avec des voiles, avec des choses que l'on cache, avec des vies que l'on cache, avec des vies sous-marins. Léonard Bonquet disait qu'il y a des chrétiens, le samedi soir, ils sont dans des boîtes de nuit, ils sont comme des sous-marins, ils vont dans l'eau pendant la nuit, et le dimanche matin, ils sortent de l'eau pour revenir à la surface. Nous ne sommes pas des sous-marins, nous ne venons pas dans la présence de Dieu avec des masques. Akab a voulu aller à la guerre, a voulu aller dans les guerres de Dieu en se déguisant, en pensant qu'en se déguisant, il ne va pas être frappé par l'ennemi. Mais la Bible nous dit que quelqu'un a tiré une flèche au hasard, si le hasard existe, mais quelqu'un a tiré une flèche au hasard, et la flèche est venue au défaut de sa cuirasse. Il pensait se masquer, mais il y avait un défaut qui était dans sa cuirasse. Ce matin, ce sont ceux qui ont le visage découvert, sans voile, qui viennent dans la présence de Dieu, comme Yamilette nous l'a suggéré ce matin. Ce sont ces personnes qui peuvent contempler la gloire de Dieu, qui peuvent contempler qui est Dieu et être transformés en l'image qu'ils contemplent de gloire en gloire. Ce verset montre que ce processus de transformation n'est pas un processus qui est limité. Tu ne peux pas dire que parce que j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'ai 30 ans en Christ, j'ai 100 ans dans les choses de Dieu, que je n'ai plus besoin d'être transformé. C'est un processus qui est continuel, le processus de transformation. C'est pourquoi il est dit que nous sommes transformés toujours un peu plus, de gloire en gloire, toujours plus, dans une gloire toujours plus grande, de mieux en mieux, à l'image de notre Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans nos vies, de nous transformer en l'image de notre bien-aimé Jésus. Donc, on parle, retenez-le bien, on parle de transformation permanente pour souligner que peu importe ton âge, peu importe ton niveau spirituel, peu importe qui tu es ici présent, tu as besoin d'être transformé. Tant que tu es en Christ, tant que tu as décidé d'être en Jésus, tu t'es inscrit dans l'école de la transformation permanente. Je l'ai accepté, Suzanne, cette école, même si c'est difficile. J'aimerais aussi souligner que lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies, Dieu, notre Père, nous inscrit automatiquement dans l'école de la transformation permanente. Parce que cette école va te permettre de grandir comme enfant du royaume de Dieu. Cette école va te permettre d'être un instrument efficace dans la main de Dieu. Un instrument qu'il peut utiliser pour sa gloire. Dans cette école de transformation permanente, tu apprends à dépendre de Dieu. Tu apprends à renoncer à toi-même. Tu apprends à faire confiance à Dieu, à croire en lui, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu vis. Il apprend à te faire, que tu fasses de lui ta priorité, que tu fasses de Jésus ta priorité. Il t'apprend à l'aimer plus que tout. Il y a un chant qui m'a réveillé un matin, j'ai dit même ça à mon épouse, c'était « Plus de toi » de Dan Lutten, « Plus de toi, plus de toi mon roi, plus de toi dans ma vie. » J'ai fait un rêve où j'étais quelque part dans mon pays et j'essayais d'ouvrir une porte. J'essayais avec toutes les clés que j'avais à ma disposition. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Pendant que je vous partage ce songe, j'ai des larmes aux yeux. J'essayais d'ouvrir la porte, mais je n'avais pas la bonne clé. Pourtant, je semblais reconnaître cet endroit. Je me suis dit, mais j'habite cet endroit probablement. Cet endroit, c'est chez moi, mais comment je n'arrive pas à trouver la clé pour l'ouvrir? Et pendant que j'attendais devant la porte, il y a un enfant qui est venu, il habitait sûrement aussi l'endroit, parce que c'était comme, vous voyez, il y a des maisons en Afrique où il y a d'abord une barrière, vous rentrez par la barrière, et puis il y a dans la concession, il y a plusieurs maisons. Donc sûrement l'enfant habitait aussi la maison, et cet enfant avait une clé, il a ouvert, il est entré. Et je voulais le suivre, et quelque chose m'a dit, ne rentre pas. Tu dois y entrer avec ta clé. J'ai partagé ce change à mon épouse. Et bon, elle avait une interprétation particulière, mais qui m'a touché. Elle me dit, lorsque nous voulons venir dans la présence de Dieu, lorsque nous voulons expérimenter les choses de Dieu dans nos vies, souvent on a tendance à vouloir utiliser des clés qu'on a communément. On n'a pas l'attitude des enfants lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu pourras expérimenter dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie si tu as un cœur d'enfant. Et pendant que je me déplaçais dans ce songe et que j'allais plus loin, il y a ce chant qui est venu dans mon esprit pendant le rêve, qui disait « Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta présence. Plus de toi. Plus de toi, Jésus, en moi. Plus de toi en moi. » En Christ, Dieu nous introduit dans un pays, un royaume qui est régi par des règles de fonctionnement. On ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu comme on fonctionne dans le monde. On ne peut pas raisonner dans le royaume de Dieu comme on raisonne dans le monde. On ne peut pas avoir une conception de la vie comme dans le monde. Lorsque nous venons en Christ, nous avons des habitudes, des attitudes, des raisonnements, des conceptions que Dieu veut aligner avec les principes du royaume de Dieu. Et c'est là où vient le processus de la transformation permanente. Ce processus a comme visée de nous faire entrer toujours un peu plus dans le plan de Dieu, toujours un peu plus le plan de Dieu dans nos vies. À chaque saison de nos vies, Dieu veut avoir l'occasion de nous rencontrer afin de collaborer avec nous, afin que son règne soit manifesté dans nos vies. Chacun de nous a des saisons. On ne contrôle pas les saisons. Tu peux fermer les yeux très fort, t'asseoir dans un lieu sombre et dire « Je ne veux pas d'hiver cette année. » L'hiver viendra. Parce que c'est une saison. C'est cyclique. Nous avons des saisons d'hiver. Nous avons des étés. Nous avons de l'automne. Et tu as ces saisons dans ta vie. Durant ces saisons, durant l'hiver, tu seras peut-être moins joyeux. Tu seras moins éclatant. Tu seras moins enclin à sortir dehors. Notamment les Africains. Chez moi, dans mon quartier, je ne vois pas d'Africains pendant l'hiver. Mais c'est bizarre, quand il y a l'été, ils sont nombreux comme ça ici. Je ne savais pas. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Je dis, ouais, j'ai beaucoup de frères africains dans mon quartier, mais je ne savais pas. Parce qu'à l'hiver, ils disparaissent. J'aimerais te dire que lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque sa présence vient dans ta vie, cette présence n'est pas inerte. La présence de Dieu dans nos vies n'est pas une masse informe et vide qui vient s'attacher à ton cou ou à ta nuque. La présence de Dieu est active. J'aimerais que vous le compreniez ce matin. La présence de Dieu dans nos vies, elle est active. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de temps en temps te donner des frissons pour que tu te sentes bien. Elle est active pour changer quelque chose dans ta vie, dans ton caractère. Acte 17, 28 souligne qu'en Christ, Dieu crée en nous la vie, le mouvement et l'être. J'aime bien ce verset-là. La vie, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, Dieu vient communiquer dans ton cœur, dans ton esprit, plus précisément, la vie. Ensuite, il crée un mouvement. Toute vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de mouvement, posez-vous la question, si cette vie de chrétienne est en Christ. Il y a toujours un mouvement dans la vie des chrétiens. Tu ne peux pas rester au même endroit tout le temps, dans la même situation tout le temps, t'asseoir sur la même chaise tout le temps, au même côté tout le temps. Non, en fait, tu dois bouger. Tu dois être transformé. Tu dois te déplacer. Tu dois réaliser des rêves. Tu dois entrer en possession de ton héritage. Il y a un mouvement qui s'effectue. Un mouvement dans notre caractère. Un mouvement dans notre façon de concevoir Dieu. Il y a un renouvellement qui s'opère à toi. 2 Corinthiens 5, 17 dit, lorsque nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est qui ces chrétiens où toutes choses ne deviennent jamais nouvelles? C'est par notre esprit que nous sommes conscients de la présence de Dieu. Donc Dieu vient mettre la vie dans notre esprit. Il ranime notre esprit et nous pouvons être en communion avec lui. Mais vous savez que l'homme n'est pas seulement esprit. Il est également âme. Il est également corps. Et le vrai enjeu spirituel de notre destinée en Christ se joue dans notre âme. Laisserons-nous nos états d'âme, nos besoins même corporels, gouverner notre marche avec Dieu? Ou bien nous allons laisser les principes de Dieu gouverner nos vies? Romains 12, versets 1 à 2 dit ceci, je suis encore dans les généralités. Je ne suis pas encore vraiment entré dans ce que j'ai envie de dire. Romains 12, 1 dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Beaucoup veulent connaître la volonté de Dieu. On veut tous connaître la volonté de Dieu dans nos vies, mais on n'est pas prêt à laisser Dieu transformer notre âme, notre intelligence, nos façons de concevoir la vie. En matière de transformation permanente, j'aimerais que tu retiennes déjà qu'en matière de transformation permanente, tu as deux choses à faire. Premièrement, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice à Dieu. Deuxièmement, tu ne dois pas te conformer au siècle présent, mais laisser Dieu te transformer en affectant positivement ta manière de comprendre les choses. Tu dois permettre à ton intelligence, c'est-à-dire le siège de ta pensée, le siège de ta capacité à réfléchir, qui se trouve dans ton âme, d'être renouvelée, afin que tu comprennes ce qui est bon pour toi. Vous savez, il y a le monde qui ne comprend pas ce qui est bon pour nous. Pour que tu comprennes ce qui est bon pour toi, pour ta vie, tu dois avoir une intelligence qui est renouvelée. Tu dois avoir une intelligence renouvelée qui va te permettre de comprendre que Dieu est bon, lent à la colère, riche en bonté. C'est une intelligence renouvelée qui peut arriver à comprendre Dieu. Mais bien aimé, le monde veut comprendre Dieu. Les gens veulent comprendre comment Dieu fonctionne. Ils se demandent même pourquoi on croit en Dieu. Mais comprendre Dieu, ce n'est pas facile. Et si tu veux le comprendre par ta sagesse humaine, si tu veux comprendre pourquoi tu passes par telle situation, pourquoi Dieu te dit de faire telle ou telle chose, tu vas chuter. Tu dois avoir une intelligence renouvelée pour être capable de comprendre la volonté de Dieu. Tu dois avoir une intelligence renouvelée pour comprendre que tu dois persévérer dans une situation où tu ne vois que les choses s'empirer. Tu vois les choses s'empirer chaque jour. Tu pries pour quelque chose, tu ne vois que les choses s'empirer. Mais Dieu te dit de persévérer. Il faut une intelligence renouvelée pour être capable de se positionner avec la pensée de Dieu et persévérer. Une intelligence renouvelée. C'est l'intelligence renouvelée qui te permet de marcher par la foi et non par la vue. Hébreux 12, 15 dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il y a des racines d'amertume qui sont dans nos cœurs à cause des situations que nous vivons, des situations qui ne sont pas débloquées, des racines d'amertume que Dieu veut déterrer de nos cœurs à travers un processus de transformation. Si tu ne laisses pas Dieu faire cette opération en toi par le Saint-Esprit, cela va produire en toi du trouble. Et non seulement ça va produire en toi du trouble, ça va troubler tout ce qui te côtoie. L'école de la transformation permanente doit affecter non seulement ton âme, mais aussi ton corps. Ton corps doit être soumis à Jésus. Ésaü a perdu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Nous tous ici, on peut avoir faim. Il n'a pas su discipliner son corps face à la proposition de son frère Jacob. Il a estimé que sa faim était plus importante que la position que Dieu lui avait donnée. Dieu en Christ t'a mis dans une position. Qui croit qu'il est dans une position ce matin? Dieu nous a mis dans une position. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il te dit que rien ne pourra te nuire. Il a fait de toi son enfant, co-héritier avec Christ. Mais toi, tu estimes que cette position ne vaut pas plus qu'un plat de lentilles. Que cette position ne vaut pas plus qu'un plaisir de 3 minutes. J'aimerais t'inviter ce matin, et c'est ça la transformation permanente. Discipline ton corps. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je te dis, discipline ton corps. Paul a parlé du fait de discipliner son corps. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 27 à 26, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'école de la transformation permanente doit te permettre de garder aussi. Donc j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de ton âme. Tu dois veiller à ton âme. J'ai parlé de ton corps. Tu dois faire attention à ton corps. Je vais parler aussi, et ce n'est peut-être pas souvent dit, mais j'aimerais parler aussi de la conscience. Garder sa conscience pure. Paul dit à son fils spirituel Timothée, en 1 Timothée 1, 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les processus faits précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce qui te permet d'avoir conscience de toi-même. La conscience, c'est aussi cette faculté réflexive que Dieu te donne de prendre conscience de tes actes. des actes que tu poses. La conscience, c'est un don de Dieu qui nous permet de nous examiner, d'examiner nos paroles, ce que l'on dit, de voir si ces paroles et ces actes, ces pensées sont conformes aux valeurs du royaume. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, et c'est une expression française, je ne sais pas si vous la connaissez, on cautérise notre conscience. Je vais vous expliquer ce que c'est cautériser sa conscience. Cautériser sa conscience. On cautérise notre conscience. Il y a une chose que j'ai remarquée dans ma marche avec Dieu. Plus je prie, plus je suis proche de Dieu, plus ma conscience est sensible. Moindre petit mot grossier qui va sortir de ma bouche, je pleure. Récemment, je parlais à mon épouse d'une pensée qui a traversé mon esprit lorsque j'ai eu une dame qui fait du service à la clientèle, mais qui m'a fait un très mauvais service. J'ai eu une pensée qui n'était pas bonne. Je ne peux pas vous la donner ici. Vous allez dire, Christophe, comment tu peux avoir de telles pensées? Mais j'étais irrité. J'ai communiqué cette pensée à mon épouse. Elle était un peu choquée aussi, je l'ai remarqué. J'ai dit, mais cette dame, est-ce qu'on a dormi ensemble pour qu'elle me parle comme ça? C'était dans mes pensées, je ne lui ai pas dit. Mais j'étais remonté. Je l'ai communiqué à mon épouse et elle n'en revenait pas. Comment tu peux avoir de telles pensées? Dès que j'ai vu sa tête, ma conscience m'a fait comprendre que là, mon frère, tu es à côté de la plaque. J'ai dû me repentir. Seigneur, d'avoir eu cette pensée-là vis-à-vis de cette dame. La conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Beaucoup l'ont perdu, l'ont cautérisé. Quand vous voyez quelqu'un tué dans les films, on tue quelqu'un et il rit. Il n'a plus de conscience. Sa conscience est cautérisée. Il y en a, je ne sais pas si vous n'êtes, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Il y a des chrétiens qui regardent des films d'horreur. Ils sont joyeux. Il rit pendant qu'on met une tronçonnée sur la tête de quelqu'un. On lit, il rit, il est content. Moi, je ne peux pas. Personnellement, je n'arrive pas. Je ne regarde plus les films d'horreur. Je ne peux pas. Plus tu t'approches de Dieu, de la présence, ta conscience est devenue tellement sensible qu'il y a des choses que tu ne peux pas regarder. Même quand tu regardes des films à eau de rose, tu veux quand même être avec ton épouse, regarder les films où on parle d'histoire d'amour. Dès que quelqu'un s'embrasse, Seigneur, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je regarde là? Et pourtant, tu es adulte. Et ma fille qui me disait, mais c'est des films de moins de 12 ans, vous pouvez regarder. J'ai dit, mais même si c'est moins de 12 ans, tu vois pas ce qu'il y a dedans là? Moins de 12 ans? Et comme tu as 18, tu peux regarder ça. Notre conscience est cautérisée. C'est quoi cautériser une conscience? Cautériser vient du grec kauteriazo, qui veut dire marquer au fer rouge quelque chose. On marque quelque chose au fer rouge. En fait, c'est utilisé de manière bénéfique en médecine. Lorsqu'on veut tuer des cellules autour d'une plaie, on va marquer au fer rouge cette plaie-là, pour que ça tue les cellules qui sont mauvaises autour de cette plaie. Ou encore, on va communiquer une chaleur. La chaleur du fer rouge ou un produit chimique va détruire toutes ces cellules anormales. Dans le sens biblique, cautériser sa conscience n'a malheureusement pas un sens glorieux. C'est laisser le diable, le péché, laisser les traces du péché dans notre conscience, au point où elle n'arrive plus à discerner le bien et le mal. Tu n'arrives pas. Les gens qui ont une conscience cautérisée sont incapables d'avoir honte. Quand il est dans une situation, il ne peut pas avoir honte d'avoir fait telle ou telle chose. Il est insensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu. La conscience cautérisée. Mais bien aimés, nous devons garder notre conscience pure en marchant dans l'obéissance à la voix de Dieu. Plus tu vas aimer la présence de Dieu, plus tu vas venir dans ses parvis, plus ta conscience sera renouvelée et sensible à la voix du Saint-Esprit qui te dira, ce que tu es en train de faire là, fais attention. Ce que tu es en train de dire là, ça semble bien, mais ce n'est pas bien. Il faut changer. Ce que tu dis à ton enfant là, ce n'est pas bon. Il ne faut plus le dire. Manifeste-lui de l'amour. Tu peux écouter la voix du Saint-Esprit lorsque tu as une conscience pure. C'est ça le processus de la transformation permanente. Et ce processus, on va finir par là. Dieu l'a imprimé, et je vais vous présenter deux exemples, chez deux personnes. Deux personnes, Dieu a voulu les soumettre à ce processus de transformation permanente. Il y a un qui a pleinement accepté ce processus. Il y a un autre qui ne l'a pas vraiment accepté à cause de l'état de son âme. La première personne qui a vraiment accepté ce processus, c'est Abraham, le père de la foi. Pour comprendre l'histoire d'Abraham, tu peux lire Genèse à partir du verset 12, Genèse chapitre 12. On parle de son histoire. Je ne reviendrai pas sur toutes les étapes de son parcours parce qu'il me reste très peu de temps. Mais pour comprendre l'histoire d'Abraham, j'aimerais que tu notes que, premièrement, lorsque un processus de transformation permanente se met en place, il se met en place dans les vies des personnes que Dieu choisit. Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que tu es le choix de Dieu? Nous tous ici, on devait dire, yeah, je suis le choix de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais je vous sens maintenant perplexe après tout ce que j'ai pu dire. Tu dois être le choix de Dieu pour être inscrit dans le processus de transformation permanente. Éphésiens 1, 3, 5 dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen, on aime ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. On commence à être un peu plus mitigé. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous tous ici, nous avons été prédestinés, élus, choisis de Dieu. Je le crois. Amen. Merci Gloria. Jean 15 il dit ceci. Jean 15, 6 et 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez mouvement, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. On porte du fruit dans le mouvement. Et que ce fruit demeure. Donc non seulement on doit porter du fruit, mais ce fruit doit demeurer. Dieu t'a inscrit dans une école de transformation permanente parce qu'il t'a choisi. Retiens-le, que tu le veuilles ou pas. Même si ça ne te tente pas comme moi, il t'a choisi. Il m'a choisi. Je n'ai pas désiré être choisi, mais il m'a choisi. Il m'a choisi. Et quand Dieu te choisit, tu ne peux plus vivre comme les autres. Pasteur Marjorie vous l'a communiqué. Tu veux aller au cinéma, tu veux avoir des amis, tu veux faire ce que tu veux de ta vie. Il te dit, va dans ta chambre, prie. Pasteur Bruno nous raconte souvent, quand il était à l'université et il finissait ses cours, il courait carrément, il courait en prenant les métros de Montréal. Il y en a qui pensaient qu'il allait dans un job. Non, il courait pour aller dans sa chambre, pour prier. Dieu l'appelait quelque part après ses cours. Lorsque Dieu te choisit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des films que tu ne peux plus regarder. Il y a des amitiés que tu ne peux plus avoir. Tu es distingué de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pourquoi tu dois te prendre au sérieux. Tu dois apprendre à accepter le regard de Dieu sur toi. Dieu a un regard sur toi, mon bien-aimé. Tu ne peux pas avoir une vie désinvolte, une vie superficielle. Dieu veut t'amener dans les profondeurs. Dieu t'a choisi. Il veut que tu sois en mouvement, que tu marches, que tu ailles et que tu portes du fruit. Comme je vous l'ai dit, il y a deux attitudes qu'on peut avoir lorsque Dieu nous choisit. Dieu nous a tous choisis, mais on peut avoir deux attitudes. Soit on fait comme Abraham. Abraham, dans Genèse 12, on dit que Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham est au garde-vous. « Oui, Seigneur, j'y vais. » Il ne sait pas où il va, mais il va. « Amen, Seigneur, tu as parlé, j'y vais. » Abraham, par son oui, a été automatiquement mis dans ce processus de transformation. Et pourtant, Abraham avait un besoin. Abraham voulait être un papa, papa d'un enfant. Mais Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Tu seras le père de grandes nations. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Abraham voulait être le père de tout le monde? Son désir, c'était d'avoir un enfant. L'enfant avec Sarah. C'était ça son désir premier. Mais parce que Dieu a porté ses regards sur lui, sa vie ne pouvait plus se limiter à lui. Sa vie devait être une source de bénédiction. Abraham cherchait la bénédiction, mais Dieu voulait faire de lui une source de bénédiction. Lorsque tu dis oui au plan merveilleux de Dieu, ta vie change. Je ne dis pas ici qu'Abraham était un homme parfait. Il n'était pas parfait. La Bible nous souligne, vous allez le lire chez vous, qu'il a un peu menti, un peu, en Égypte. Il a dit que bon, Sarah était trop belle. Hein. Il a dit, moi, tu es trop belle. Si on va là-bas, on va me faire des problèmes. Dis que tu es ma sœur. Il a menti. Sa femme Sarah lui dit, comme l'enfant ne vient pas, j'ai ma servante là. Prends-la pour femme, ça va aller. Lui, il n'a pas cherché Dieu là. Il est allé rapide. C'est sûr qu'il regarde déjà Agar, c'est sûr. Parce que la manière dont il est allé rapidement là. Nous les hommes, on est compliqués. Hein? Abraham n'a pas consulté Dieu pour aller vers Agar. Il était un homme comme nous tous, avec un manque de discernement, avec peut-être des manquements, il pouvait mentir. Mais parce que Dieu l'a choisi, Dieu s'est porté garant de faire de lui la meilleure version de lui-même. Est-ce que tu veux être la meilleure version de toi-même? Et c'est pourquoi Dieu a décidé de faire alliance avec lui. Je veux faire alliance avec toi parce que je veux faire de toi une meilleure version de toi-même. Et en faisant cette alliance, qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Il dit à Abraham, Genèse 17, verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre. » S'il y a un mot que vous devez retenir de ce que j'ai dit ce matin, « Marche devant ma face et sois intègre. » Deuxièmement, il dit à Abraham, tu dois passer par la circoncision. La circoncision. Oups. Dieu demande à Abraham, dans sa marche avec lui, dans l'alliance qu'il tisse avec lui, Dieu se porte garant pour changer Abraham. Pour lui faire du bien, Mais il lui demande deux choses. Marche devant ma face. En d'autres termes, expose ta vie quotidiennement à ma présence. Expose ta vie en tout temps à ma présence. Consacre-toi. Deuxièmement, il lui fait vivre une expérience que j'aimerais pas que vous viviez. La circoncision. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ici. Moi, j'ai dû poursuivre mon fils pour qu'il puisse au pays le vivre, la circoncision. Ce n'est pas agréable. Mais je bénis Dieu que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu ne nous impose pas de circoncision physique. Mais il y a une circoncision qu'il veut. La circoncision du cœur. Pourquoi Dieu lui fait subir cette expérience? Parce qu'il voulait qu'Abraham ait dans son corps la marque de l'alliance avec lui. Tu dois avoir dans ton cœur la marque de ton alliance avec Dieu. L'usage de la métaphore de la circoncision dans la nouvelle alliance avec Christ permet de souligner l'importance pour chacun d'entre nous d'avoir dans son cœur la marque de son appartenance à Christ. Et cette circoncision consiste au dépouillement de notre corps, de notre cœur, de tout ce qui fait référence à la chair. On dit en espagnol la carne. Ce qui fait référence à la chair. Colossiens 2, versets 10 à 12, dit ceci: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair, le dépouillement du corps de la chair. Qui veut vivre cette circoncision? C'est dans la présence de Dieu que Dieu opère la circoncision de nos cœurs. Que le Saint-Esprit vient avec la parole de Dieu, l'épée tranchante de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient séparer avec la parole, jointure et moelle, nos pensées, les pensées de Dieu, l'âme et l'esprit, comme Hébreux 4, 12 le dit. Beaucoup de personnes dans la Bible ont subi cette circoncision. Vous avez Pierre, vous avez Paul, vous avez le roi David. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment laissé Dieu faire son œuvre dans leur cœur. Ils sont restés dans leurs états d'âme. Et je vais finir avec cette personne, c'est Jonas. Dieu a porté aussi son regard sur Jonas. Il a dit à Jonas, j'ai une mission pour toi. J'ai un appel pour toi. Il dit à Jonas, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Vous le trouvez dans Jonas 1 à 3. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas semble obéir. Il se lève. Mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Imaginez-vous quelqu'un qui paye le prix pour fuir la face de Dieu. Il paye son transport à Tarsis. Je ne sais pas combien ça coûtait pour fuir la face de Dieu. Et pourquoi il fuit la face de Dieu? Vous le verrez plus tard si vous lisez Jonas, parce que j'ai plus assez de temps. Jonas ne comprenait pas Dieu, mais en même temps, il savait qui était Dieu. Il sait que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Même si ta méchanceté monte jusqu'au ciel, il suffit que tu pleures, que tu te répandes, et il revient de sa voix. Il te pardonne. Il savait ça. Et la Bible dit qu'il y a un abattement qui est venu dans son âme. Mais pourquoi? Ninive, c'était la capitale de la Syrie. La Syrie, les Assyriens, ils n'étaient pas gentils avec Israël. C'était des personnes, lorsqu'ils voulaient faire passer leur temps, ils faisaient leur passe-temps, c'est pour aller embêter le peuple d'Israël, aller brûler, piller les populations israéliennes. Donc, ce n'étaient pas des gens que les Israélites, que les Juifs appréciaient vraiment. Et Dieu lui dit, lève-toi, va parler à eux. Il n'avait pas une parole de bénédiction, c'était une parole de jugement. Mais il savait qu'en disant cette parole de jugement-là, ces gars-là, ils peuvent avoir la possibilité de changer. Hein? Souvent, on veut que Dieu parle aux gens qui nous font du mal, mais ce qu'on veut surtout, c'est que le feu de Dieu tombe sur eux. Que Dieu les punisse. Au chapitre 4, Jonas dévoile l'étendue de son amertume et de sa colère après Dieu. Parce que Dieu a manifesté sa compassion lorsqu'il est allé parler finalement, après être allé dans le ventre d'un poisson, je vous laisse l'histoire, il est allé dans le ventre du poisson et puis il s'est repenti et puis il est revenu. Il est quand même allé parler à Ninive. Et la Bible dit que Ninive, les gens, les populations se sont repentis, le roi s'est repenti et Dieu a vraiment levé sa main pour bénir Ninive. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité, il implora Dieu et dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Lorsque tu es loin de Dieu, tu ne peux pas comprendre le cœur de Dieu. Lorsque tu laisses l'amertume, lorsque tu laisses le trouble de l'amertume envahir ta vie, tu ne peux pas comprendre Dieu. » Et c'était le cas de Jonas. Mais lorsque tu marches dans la présence de Dieu, le cœur de Dieu s'imprime dans ton cœur. Sa bonté se reflète dans ton caractère. Il suffit de voir l'exemple d'Abraham. Abraham aussi avait un truc avec Sodome et Gomorre. Dieu voulait punir aussi Sodome et Gomorre. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a intercédé. Parce que Dieu avait changé le cœur d'Abraham, Abraham qui affectionnait la présence de Dieu. Ce matin, je ne vais pas être plus long que cela, même si j'ai encore plein de choses à dire. J'aimerais ce matin que tu comprennes que tu as besoin d'une transformation permanente. Et cette transformation permanente t'appelle à laisser Dieu enlever toute forme d'aigreur dans ta vie, toute forme d'amertume que les circonstances de la vie ont plantée en toi. Que toute forme d'irritation face à ce que tu as vécu, face à ce que tu as traversé, puisse quitter ton cœur ce matin. Que Dieu vienne restaurer ta conscience de tout ce qui a pu être marqué au fer rouge dans ta conscience et qu'autoriser ta conscience. Ce matin, que Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. C'est sa présence qui nous renouvelle. C'est sa présence qui change notre cœur de pierre en cœur accessible à sa pensée, en cœur de chair. Est-ce qu'on peut prier ensemble, mes bien-aimés? Koshandaya Baba. Seigneur, ce matin, je comprends que j'ai besoin d'une transformation dans ma vie. Je comprends ce matin que tu as porté tes regards sur moi et que tu m'as choisi. Tu m'appelles à être ton enfant, à te servir. Ce matin, je dis oui à ton appel. Je dis oui à la parole que tu as prononcée sur ma vie. Peu importe les situations que je traverse, peu importe les circonstances qui veulent altérer l'état de mon âme. Je dis oui à la parole que tu as prononcée sur ma vie. Ce matin, Seigneur, viens ôter de ma vie toute forme d'aigreur, toute forme d'amertume, toute forme, Seigneur Jésus, de sentiment de rejet. Viens l'ôter dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, de mes irritations. Pardonne-moi de mes irritations face au bien que tu veux faire à ceux qui m'ont causé du tort. Merci de guérir et de restaurer mon âme ce matin. Afin que mon âme soit sensible à ta voix. Donne-moi ton cœur, Jésus. Donne-moi ton cœur. Que je puisse aimer comme toi. Que je puisse penser comme toi. Que je puisse pardonner comme toi. J'accepte ce matin de venir dans ta présence, de m'attacher à ton cœur.
Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, mon roi, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi.
Seigneur, par ton esprit, rends-nous semblable à toi. Saint-Esprit, viens faire une œuvre maintenant dans nos vies. Si cette parole que j'ai prononcée ce matin a parlé à ta vie, j'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur et nous allons ensemble prier. Il faut que quelque chose se passe dans nos vies, que quelque chose se passe dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas traîner dans nos vies cette amertume. Nous ne pouvons pas traîner dans nos vies ces aigreurs. Nous ne pouvons pas traîner dans nos vies ce matin cette aigreur, ce sentiment de rejet. Il faut que Dieu fasse une œuvre. Ce matin, si tu as besoin que Dieu fasse une œuvre dans ta vie, j'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur ce matin. Nous allons prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Shandarakasu. Shindeya baba 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 sondorokoshi. Kesandaya baba baba. Seigneur, maintenant, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, notre désir ce matin, Jésus, en mettant nos mains sur nos cœurs ce matin, c'est que tu viennes faire une œuvre dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, que tu viennes opérer ce matin cette circoncision que nous avons toujours fui. Seigneur, nous voulons ce matin que par ton esprit, Seigneur, tu prennes le bistouri, Seigneur, le bistouri, Jésus, dans ta présence et que tu viennes ôter de nos cœurs tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur Jésus, les œuvres de la chair qui sont, Seigneur, par nos cœurs, qui sont, Seigneur Jésus, imprégnés sur nos cœurs, que tu viennes les ôter maintenant par l'action de ton esprit, par l'action de l'épée de ton esprit, Seigneur. Seigneur, merci pour ton œuvre ce matin. Ton œuvre de restauration dans nos vies. Ton œuvre de restauration dans nos pensées. Ton œuvre de restauration, Seigneur, dans nos pensées. Seigneur, maintenant même, tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, toute pensée qui est captive, qui est restée emprisonnée dans des raisonnements qui ne sont pas du royaume. Seigneur, maintenant même, ces pensées captives sont libérées au nom de Jésus. Seigneur, tu nous plantes maintenant même dans ta présence. Tu nous plantes dans le flot de ta présence. Le flot de ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu. Être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu. Être près. Une dernière fois. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face. Et près de toi. Si tu as été béni ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons nous lever. Alléluia. Je ne sais pas si Pasteur Marjorie a une communication. Non, c'est correct. Rien de spécial. Ok. Pasteur Marjorie souhaiterait que l'on prie pour l'équipe d'évangélisation. Donc nous allons prier pour l'équipe de l'évangélisation. Et ensuite, je vais vous libérer pour que vous puissiez rentrer chez vous. Alors, levons nos voix et nous allons prier pour l'équipe d'évangélisation qui doit aller sur le terrain pour parler de Jésus. Seigneur, nous te prions pour cette équipe d'évangélisation, Seigneur, pour cette organisation qui est mise en place, Seigneur, pour cet événement qui aura lieu, Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons atteindre, Seigneur Jésus, les populations, nous voulons atteindre ceux qui nous entourent, nous voulons atteindre, Seigneur, cette ville, ces hommes et ces femmes qui sont dans cette ville, pour toi, Jésus. Nous voulons nous mettre en mouvement pour que ton règne descende, Seigneur, dans cette ville. Éternel, nous te prions à cet instant que tu viennes fortifier, Seigneur, l'équipe, que tu viennes les raviver, que tu viennes raviver, Seigneur, leur foi, que tu viennes remplir leur cœur de ton esprit, que tu viennes les environner de ta grâce, Seigneur, durant, Seigneur, les processus de préparation de cet événement. Seigneur, tu pourvois à tous les besoins selon ta richesse en gloire. Tu suscites, Seigneur Jésus, ô Dieu, des circonstances afin que quelqu'un reçoive ta parole. Tu suscites des situations, des circonstances pour que quelqu'un écoute ta parole. Seigneur, tu prépares même les cœurs. Tu prépares les cœurs maintenant